gros pépère.
Allez, une question de plateau.
Oh là 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 là, quelle image.
La joie du pistolero à l'arrivée.
Eh bien, salut à tous et bienvenue dans Chasse Patate pour ce deuxième numéro de 2019. Et dans ce deuxième numéro, on ne va pas parler à proprement parler des courses ou de ce qui s'est passé pendant l'intersaison, puisqu'on l'a déjà évoqué à l'épisode précédent. On a parlé des transferts. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Et pour cet épisode, j'accueille Anselme. Salut Anselme.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Et on est également avec Alex. Salut Alex.
Salut.
Bon, du coup, on va parler de l'attribution des wildcards pour le Tour de France 2019. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, la semaine dernière, le 10 janvier, Amaury-Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France, a annoncé les équipes qui ont été sélectionnées pour le Tour de France 2019. Mais contrairement à d'habitude, où ils annonçaient toutes les wildcards, les 4 wildcards d'un coup, ils n'ont pas officialisé toutes ces invitations aux équipes Continental Pro, mais seulement la moitié. Ils ont seulement annoncé la sélection de Wanty Group Gobert et de Cofidis, laissant en suspens les 2 dernières places, qui vont donc se jouer entre Arkea Samsic, Direct Energy et Vital Concept B&B Hotel. Alors bon, pour les Basques, il y a également Skadi Murias qui était candidate, mais il y a peu de chances que ça se fasse, donc on va se restreindre à ces 3 équipes françaises. Alors, la justification officielle d'ASO pour cette sélection en 2 parties, c'est qu'ils ont voulu anticiper la réforme du cyclisme mondial qui interviendra la saison prochaine, en invitant d'office les 2 meilleures équipes au classement Europe Tour en 2018, puisque Wanty était première et Cofidis deuxième. On va juste rappeler qu'avec cette réforme qui sera mise en place par l'UCI, les 2 meilleures équipes de deuxième division au classement mondial seront obligatoirement invitées sur toutes les épreuves World Tour l'année suivante. Alors du coup, je vous pose la question pour lancer le débat. Qu'est-ce que vous pensez du choix d'ASO de faire la sélection de cette manière-là, et donc aussi du fait d'avoir invité déjà Cofidis et Wanty Group Gobert?
Bah du coup, moi je pense, enfin, sur le fait, déjà pour les équipes qu'ils ont pris, du coup, Cofidis et Wanty, donc c'est pas forcément les plus mauvais choix. Déjà Cofidis, ça me semblait évident qu'ils allaient y être, déjà parce qu'avec Boigny Laporte sur les sprints, on sait qu'ils seront là. Et puis leur recrutement était pas mal axé, notamment sur des grimpeurs avec Atapuma ou Hansen encore. Donc on sait qu'ils peuvent briller à peu près sur tous les terrains. Wanty, c'était l'équipe un peu plus dont la sélection était moins sûre. Après, ils sont premiers du classement continental, donc on sait qu'ils brillent tout au long de la saison, donc ça peut être vu comme un moyen de les remercier. Puis bon, le départ était à Bruxelles, donc c'était aussi une des hypothèses avancées par beaucoup. Après, cette année sur le Tour de France, ils ont pété totalement inexistants non plus. C'est principalement eux qui ont fait vivre les étapes de plaine. Ils ont été échappés tout le temps, parfois même tout seuls. Et puis, dans leurs effectifs, ils ont Guillaume Martin, qui est un des bons grimpeurs français, qui peut aller chercher une étape. Et enfin, avec Dupont et Pasqualone, ils ont des sprinteurs tout à fait corrects. Notamment Pasqualone, c'est 7 top 10 l'année dernière sur le Tour. Donc c'est déjà ça. Après, pour le fait de le baser sur la réforme, c'est pas mal. Ça montre déjà l'équipe française qui sera pas invitée que va falloir être performant toute la saison pour assurer une wildcard la saison prochaine, et que la nationalité sera pas suffisante, et puis permettre d'attendre Paris-Nice. Je trouve que c'est une bonne chose, parce que du coup ça va se permettre aux équipes de montrer leur valeur avant de découvrir la sélection.
Oui, après, c'est parce que c'est vrai que du coup, avec la façon dont ça a été annoncé, et puis aussi le fait que aussi bien Arkea, Samsic que Direct Energy et Vital Concept, B&B Hotel, seront toutes les 3 invitées sur Paris-Nice, Donc ça pourra faire un petit peu un test. Alex, toi, est-ce que tu penses aussi que c'est une sélection assez logique de la part d'ASO?
Je pense que c'est une bonne idée. Le seul reproche que j'aurais fait, peut-être que je l'aurais pas fait aussitôt. J'aurais peut-être attendu après pareil Nice, après pour que ASO ait vraiment voile qui vont se disputer sur le World Tour. Donc à Paris Nice, j'aurais par exemple j'aurais invité Wanty au lieu de Delco et voir ce qui donne sur Paris Nice et ensuite voir le spectacle qui est offert. Si toutes les équipes sont à peu près sur le même niveau sur Paris Nice, alors j'aurais mis en place la réforme. En revanche, s'il y avait un écart, par exemple, plus en faveur des trois qui n'ont pas été invités et que KSO ne voulait pas inviter. Pour le coup, là, j'aurais réfléchi à deux fois.
Oui, après, bon, d'une autre manière, c'est vrai que ce qu'ASO a voulu faire sur Paris-Nice, en invitant toutes les équipes françaises, c'était d'une certaine manière permettre aux trois équipes qui sont en suspens de faire une petite bataille entre eux, que pouvoir avoir un choix un peu plus sportif, et en même temps de pas non plus négliger Delco Marseille. C'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu une dérogation en invitant 5 équipes et pas 4 comme les années précédentes. Donc après, voilà, après, j'ai envie de dire que ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est le fait d'avoir choisi dès cette année 2 places sur le critère du classement Europe Tour, étant donné que bah, jusqu'à maintenant, à peu près personne s'intéressait à ces classements globaux sur l'ensemble de la saison. Voilà, on avait peut-être Wanty qui s'y intéressait. Au niveau World Tour, on a quoi? On a AG2R ou Movistar qui s'y intéressent. Mais c'est vrai que du coup, il y a peut-être pas forcément. C'est peut-être un argument qui est bizarre dans la mesure où bah, il n'était pas pris en compte par les équipes. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, après, enfin, on sent qu'il y a une volonté de l'UCI de faire revivre des classements, notamment au niveau World Tour, comme ça pouvait être le cas à l'époque avec la Coupe du Monde. Donc, ça s'inscrit dans une logique, donc c'est compréhensible. Après, est-ce que le faire dès maintenant, c'est une bonne idée? Je sais pas, mais ça va peut-être pousser les équipes justement à dès cette année faire un maximum de courses. Et essayer au maximum de marquer des points. C'est peut-être un peu ça que vise Israël avec ses 30 coureurs, pouvoir marquer un maximum de points partout pour être assuré d'avoir des wildcards. Donc après, ça le mettre en place cette année, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais c'est dans la logique, dans le mouvement actuel, donc on peut pas difficilement dire que ce soit une mauvaise idée.
Toi, Alex, ton avis sur la question?
Ouais, à peu près pareil. Moi, je trouve quand même que de toute façon, les classements, qu'ils soient que les équipes le jouent à fond ou pas, à mon avis, ça va donner à peu près les mêmes résultats. Du coup, on se retrouverait quand même Wanty, Cofidis, qui ont été quand même beaucoup plus régulières, que ce soit un World Tour ou autre part, devant des équipes comme par exemple Vital Concept l'année dernière qui n'ont rien fait, Fortuneo n'ont rien fait, l'autre Direct Energy n'a pas fait grand chose non plus. Donc au final, c'est les deux équipes qui sont les plus fortes et qu'elles méritent de toute façon d'y être sur le tour au final. Donc je trouve que c'est une bonne initiative de les mettre dès cette année-là.
Oui, après, tu dis que c'est les meilleures équipes. J'ai envie de te répondre par deux points un petit peu négatifs, parce que ça peut être d'un côté le fait que comme c'était absolument pas un objectif, bah, les équipes comme Direct Energy ou comme Fortuneo visaient simplement des objectifs en particulier, et comme ça a été le cas notamment pour le Tour de
Ah,
France
mais
l'an dernier.
Fortuneo, j'aimerais bien voir où est leur objectif. Hein.
Ah oui, on va dire qu'ils les ont un peu manqués l'année dernière, mais on va dire qu'ils avaient peut-être pas forcément l'envie d'être réguliers sur l'ensemble de la saison et plus performants sur certains points chauds. Alors que bah, ça va devenir nécessaire hein, s'ils veulent être dans les deux premières places. Et après aussi, ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est les recrues. Parce que quand on voit Direct Energy qui recrute Terstra, Vital Concept qui recrute Vichot, Roland et Gauthier, Arkea Samsic qui recrute Greipel, ben ça c'est pas pris en compte dans les classements de l'année dernière, de l'année précédente. Donc on peut avoir une équipe qui n'a pas forcément fait une année super, mais qui va super bien se renforcer et qui risque de passer à la trappe. Voilà. C'est le doute, le risque qui se pose avec Arkea Samsic, parce que voilà, ils sortent d'une saison très moyenne, et du coup ça fait qu'ils ne sont pas dans les deux premières équipes Europe Tour. Donc voilà, après j'ai envie de dire, ça se rapporte plus à un débat qui va être posé autour de cette réforme. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous demander, au niveau de cette réforme, enfin, simplement en prenant l'angle des wildcards, est-ce que vous pensez qu'elle va être bénéfique?
Je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que si c'est si j'ai bien lu et que les équipes ça alors la réforme, si j'ai bien compris, et vous m'arrêtez si je me trompe à un moment parce que je l'ai pas lu, on va pas se mentir, c'est les deux meilleures équipes à l'Europe Tour sont invitées sur toutes les courses World Tour en la saison suivante, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est les deux meilleures équipes au classement mondial UCI de deuxième division qui seront invitées sur toutes les épreuves World Tour, mais après elles peuvent refuser.
Si j'ai bien compris, elles peuvent refuser les grands tours, mais dans le petit graphe que j'avais vu, j'avais pas vu que c'était possible de refuser pour toutes les autres courses.
Ben, en tout cas,
Du coup,
ça a pas été spécifié, alors c'est vrai
ça va être chaud
que.
sur une planning parce
Bah, c'est
que
ça le
limite,
truc.
limite faire une promotion décente parce que là, si tu les invites sur tous les courses World Tour, c'est en fait des équipes World Tour, ça n'a pas de sens de les laisser en bas en fait du
Ouais.
coup.
Puis
Donc,
même
moi je dis,
d'un point de vue.
ça dépend. Du coup, ça dépend. Moi je dirais en fait, il faudrait les limiter à une zone géographique précise ou quoi que ce soit parce que se retrouver avec Cofidis sur le Giro, bof bof, mais bon.
Moi, j'aurais plutôt dit, enfin, l'idée est bonne, mais elle n'est pas poussée assez. J'aurais dit, ok, on les invite à toutes les courses, avec possibilité évidemment de refus, mais j'aurais également mis diminuer le nombre d'équipes World Tour pour permettre une sorte de palier entre les grosses équipes World Tour et avec un contingent quand même d'équipes continentales suffisamment fortes pour peser sur les courses World Tour là où elles souhaiteraient être. Et les équipes plus continentales plus faibles qui, elles, n'existent qu'à travers les échappées quasiment. Mais après, je pense que c'est une bonne chose parce que les wildcards, c'était un peu le poker. Et par exemple, une équipe comme Monty, par exemple, si elle se retrouve première ou encore dans les deux premiers en fin de saison, elle aura la certitude d'être invitée sur les courses importantes, même notamment les Flandriennes. Et au niveau du recrutement, justement, ça pourra amener certaines équipes à recruter certaines têtes d'affiche qui auront la certitude de participer à beaucoup de courses. Comme dans les années 2000, on se retrouvait avec des équipes moins importantes, avec des gars comme Cipollini, mais on savait que la renommée du coureur permettrait à l'équipe d'être présente sur les courses importantes.
Ouais, après j'ai envie
Oh,
de
ma
dire,
joie.
et ça c'est ce qu'Alex a un peu évoqué, si on regarde d'un point de vue marketing, en gros vous allez avoir des équipes qui vont faire tout le calendrier World Tour sans être en World Tour. Alors à partir de ce moment, quand tu vas voir ton sponsor, que tu vas lui dire on fait toutes les courses de l'élite mais on n'est pas dans l'élite. Ça va être un peu bizarre. Enfin, en gros, en fait, j'ai envie de dire, les deux meilleures équipes des Pro Series, la deuxième division, qui vont être les deux meilleures équipes au classement mondial, vont se retrouver en World Tour sans l'être. C'est un peu une situation, un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu étrange quand même.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que je te dis que le truc qu'il faudrait, c'est que pas forcément, enfin, les inviter obligatoirement. C'est si elles le demandent, l'invitation, elles sont sûres de l'avoir. C'est ça qu'il faudrait mettre en place, je pense, plus que l'obligation de participer. Parce que évidemment, sinon, ça n'a pas de réel intérêt.
Au même, ça revient un peu au même. C'est faire ça, c'est ça revient exactement au même de dire elles sont d'office sur toutes les courses World Tour, mais elles peuvent refuser l'invitation. Ça revient au même que si elles demandent l'invitation, elles seront sûres de participer. L'équipe participe aux courses World Tour qu'elle veut. Mais du coup, moi je vois pas vraiment intérêt. Je suis un peu je vois pas ce que ça apporte de plus qu'une promotion qu'un système de promotion relégation que beaucoup plus marché dans le cyclisme.
Bah, je suis pas d'accord parce qu'une équipe pour un sponsor notamment devoir faire toutes les courses World Tour, ça nécessite et d'être obligé de les faire, ça nécessite un budget, de la logistique, tout ça. Alors que si, par exemple, ils se disent, bon, ils arrivent dans le truc, ils se font leur équipe, mais, par exemple, un nouveau pays, il va vouloir espérer des invitations, il est pas sûr de l'avoir avec le système actuel, mais avec le système sportif, là, et ben, il pourra se dire, on vise le classement, il se donne à fond, et comme ça, l'année suivante, ils seront sûrs de pouvoir faire les courses que World Tour. Et ce, peu importe, parce que le système promotion-relégation, c'est que s'ils se retrouvent en World Tour sans le vouloir, enfin, et qu'ils se retrouvent sans les moyens de pouvoir gérer une équipe World Tour, ça risque de voir, comme les autres années, des équipes qui disparaissent, des coureurs au chômage, tout ça. Et donc, je pense que, justement, ce système-là, c'est la bonne alternative au vu de l'état du cyclisme actuel.
Après, pareil, tu peux quand même refuser une promotion en World Tour, hein. L'un n'empêche pas l'autre.
Oui, après oui, mais si tu pars sur le fait de promotion descente, enfin de globalement.
Bah, les deux premières se voient l'opportunité d'être intégrées dans le World Tour, et si elles acceptent, tu en descends une de l'autre côté.
Oui, potentiellement on peut faire ça.
Après, il y a peut-être le risque aussi pour les sponsors, on leur dit bah, on a une équipe World Tour, investissez pour nous. Et au bout de une ou deux années, il se retrouve à plus être en World Tour. Ça risque aussi d'être problématique à ce niveau-là, quoi. Malheureusement.
Ouais, peut-être.
Après, sinon, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être le problème, ça serait qu'on donne trop d'importance au classement globaux, en fait. Classement globaux, comme là, aussi bien le classement World Tour que le classement mondial UCI. Du coup, ça fait qu'on a des équipes qui vont chercher davantage à faire des placettes qu'à gagner. Et je trouve que c'est dommage, quand même.
Après, gagner, ça rapportera toujours plus de points que faire des placettes. Donc, une grosse victoire par là, ça devrait rapporter plus qu'un nombre incalculable de placettes quelque part. Enfin bon. Ça devrait.
Tout dépend du barème qui est mis en place, en fait. Si, oui. si t'as peu d'écart entre la première et la deuxième, troisième, quatrième place, voilà, il faut donner plus d'importance. Hein. En tout cas, si on reste dans ce schéma-là, en voulant mettre vraiment clairement en avant les classements globaux, il faudrait essayer de trouver un moyen pour que la victoire ait toujours un peu plus d'importance encore. Parce que, voilà, si on se retrouve avec des calculs d'épicier tout le temps, voilà, c'était. Ça s'est pas mal développé en World Tour. Dans les courses un petit peu de niveau inférieur, on était. On échappait encore à ça et j'espère que ça va pas devenir la norme quand même.
Bah, et bien l'avenir nous le dira, je pense.
Ouais, on va voir, ça sera une saison de test en tout cas. En tout cas, cette idée des classements globaux, du coup, Cofidis et Wanty Groupe-Gobert en ont bien profité, surtout j'ai envie de dire, pour les sélections pour le Tour de France. J'aurais imaginé que Wanty Groupe-Gobert était l'équipe la plus en difficulté pour être invité. Mais du coup, tant mieux pour eux, même s'ils ont des bons atouts. Et après, juste une dernière question à ce niveau-là, au niveau de Wanty Cofidis. Est-ce que vous pensez que la justification officielle d'ASO, c'est la vraie justification, ou est-ce que vous pensez qu'ils ont pris Wanty parce qu'il y a un départ en Belgique?
Pas sûr, je pense que c'est leur vraie justification parce que je les vois mal. Autant l'année dernière, le Giro en Israël et l'invitation d'Israël, c'était sûr que c'était lié. Autant là, sur le plan sportif, Wanty, ils ont quand même quelques belles garanties et puis ils ont montré par le passé qu'ils avaient tout à fait leur place sur le tour. Donc il n'y a aucune raison que ce soit ça. Et c'est pas une, comment dire, c'est pas la mauvaise, une mauvaise idée que d'anticiper. Et je pense que c'est la vraie raison. Ils avaient aucune raison de mentir, je pense.
Alex, t'es dans la même idée, il n'y a pas de.
Ouais, la
Y a
même
pas
idée,
d'idée,
je
y a
pense
pas
pas
de
que.
volonté cachée.
Je pense pas qu'il y ait de favoritisme. À chaque fois qu'on parle que le Tour de France part de l'étranger, ils invitent pas forcément une équipe du coin, donc je pense pas que ça changerait pour ce Tour de France particulier. Donc non, je pense que c'est leur vraie raison également.
Ok. Bon alors maintenant, si vous, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter sur Cofidis ou anti-groupe Gobert, on va passer maintenant à l'autre partie de ces wildcards avec les trois équipes qui vont se battre un petit peu entre guillemets hein, sur Paris-Nice pour être invitées, à savoir donc Arkéa-Samsic, Direct Energy et Vital Concept B&B Hotel. Alors avant de débattre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les présenter en montrant les points forts et les points faibles. Et pour commencer, Anselme, je te laisse parler d'Arkéa Samsic.
Ouais, alors du coup Arkéa, leur gros point fort, c'est évidemment deux coureurs, Greipel et Barguil. Donc Greipel, c'est 11 étapes sur le Tour de France et ça reste une valeur sûre. On sait que même s'il a pas gagné depuis sur les deux dernières éditions, il fait au moins un podium. Donc pour une équipe Continental Pro, un sprinter de sa trempe, c'est un atout hyper fort. Après, ajouter à ça, il y a Barguil. Donc, c'est deux étapes en 2017, avec également deux étapes sur une Vuelta, le maillot à poids en 2017 et un top 10. C'est pour moi le troisième grimpeur français derrière Bardet et Pinot, celui qui est capable de briller au classement général s'il s'en donne les moyens et si il a les jambes pour. Donc, derrière ces deux-là, j'ajouterais j'ai quatre coureurs qui, pour moi, peuvent briller, mais surtout en échappée. Il y en a deux, c'est surtout en montagne. Je vais mettre Maxime Bouet. Donc, pour moi, ça va être soit dès que la pente va monter, il pourrait tirer son épingle du jeu. Et Brice Feuillu, qui a déjà gagné sur le Tour de France, ça fera 10 ans cet été, et qui peut également aller chercher un top 15 au général. Comme il a su le faire par le passé avec l'équipe. Après, il y a deux autres coureurs qui, eux, c'est plus sur des étapes accidentées qu'on peut les voir. C'est tout d'abord Pichon, qui en plus de grimper correctement a une bonne pointe de vitesse. Donc à l'image de Matteo Trentin à Lyon, il pourrait régler, c'était en 2013, il pourrait régler un groupe d'échappés après une étape assez accidentée. Et également, je mettrais Florian Vachon, qui a un profil similaire à Pichon, bien que plus limité au sprint. Après, les points faibles de l'équipe, ça va être que Greipel est quand même vieillissant. Donc, comme je l'ai dit, il n'a pas gagné sur le tour depuis 2 ans. Et avec une équipe moins forte que la Lotto, est-ce qu'il va pouvoir le rééditer? C'est pas sûr. Et Barguil, il sort d'une saison hyper compliquée. Il a fait 7 top 10 sur la saison, il est monté une seule fois sur un podium. Donc, il a clairement pas montré les garanties pour d'une réussite et son tour a été vraiment en deçà du précédent puisque il finit deuxième au meilleur grimpeur au classement du grimpeur, mais derrière Alaphilippe qui pour moi il doit être devant quand on voit ses qualités de grimpeur là où Alaphilippe est plus un puncher. Et puis Greipel et Barguil, c'est un peu les deux arbres qui cachent la forêt derrière. Et derrière eux, s'il y a des gars qui peuvent briller, ça resterait quand même très faible. Et je vois mal, enfin, ça manque de densité. Donc c'est ce qui pourrait leur faire payer la wildcard face aux autres équipes.
Allez, tu nous as presque fait la compo de l'équipe pour Tour de France là.
Ah bah, ils ont tellement peu de coureurs vraiment bons que.
J'allais dire Emmanuel Hubert si tu nous entends, mais au final non. Alex, maintenant je te laisse nous présenter les points forts et points faibles de Direct Energy.
Alors, Direct Energy, leur point fort, c'est une grande régularité sur le Tour de France depuis qu'ils ont été invités en tant que brioche chez la boulangère dans les années 2000. Ils sont venus sur le Tour de France régulièrement, ils ont gagné régulièrement, ils sont montrés à l'avant régulièrement. C'est l'équipe invitée qui a le plus gagné sur le Tour de France. Le point fort de cette équipe, c'est leur recrutement, avec un recrutement plutôt incroyable. Enfin, on s'y attendait pas vraiment pour une équipe du calibre de Direct Energy, avec Niki Terpstra, qui est plutôt flandrien, avec Nicolo Bonifazio, le jeune italien qui sprint plutôt pas mal, avec Anthony Turgis, qui sera un bon équipier notamment, et qui se renforce donc du coup avec Lilian Calmejane, qui devrait être le leader de l'équipe, et des coureurs quand même très solides comme Jonathan Hiver ou Adrien Petit, par exemple. La grosse faiblesse de l'équipe, c'est que il y a un top sprinter ou un top grimpeur, comme on peut le voir dans les autres équipes. Chez Fortuneo, on a Greipel, Barguil, qui sont deux top, enfin, c'est un top grimpeur et un top sprinter. On ne retrouve pas ça chez Direct Energy. Lilian Calmejane, c'est plutôt un bon baroudeur, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui visait vraiment les grands tours. Niki Terpstra, on va pas se mentir, sur le Tour de France, il sera inutile. C'est un très gros coup pour les Flandriennes. Mais sur le Tour de France, à part bûcheronner dans la plaine ou faire des grosses échappées, il va servir à rien. Et Nicolo Bonifazio, il a donné aucune garantie comme Greipel pouvait en donner l'année dernière. Nicolo Bonifazio, il a surtout fait un gros début de tour, mais il a été très très faible sur le... Enfin, gros début de tour, je raconte n'importe quoi. Gros début de saison, il a été très bon. Il s'est un peu ramassé sur la fin. Du coup, il n'a pas vraiment donné de garantie comment il pouvait performer en World Tour. Et pour moi, ça reste inférieur à un Coquard ou à un Greipel, comme on peut aligner chez Vittel Concept. Donc, je me suis amusé à faire une start list pour le Tour de France. J'aurais mis Terpstra, Bonifazio, Petit, Calmejane, Taramae, Sicard, Turgis. Ça envoie pas du rêve. Donc, du coup, pour que Direct Energy obtienne cette wildcard, ils vont devoir prouver sur les wildcards qu'ils auront sur Paris-Nice, le Dauphiné et les Ardennaises qu'ils en sont dignes et qu'ils peuvent aller chercher des victoires sur le tour, voire mieux.
Ok, très bien. Donc du coup, pour finir, moi je vais présenter un petit peu Vittel Concept. Alors côté point positif, c'est que déjà c'est une équipe qui est un petit peu comme Arkea Samsic, peut briller sur tous les terrains, puisqu'on a Brian Coquard qui est là pour les sprints, on a Pierre Roland qui est là pour la montagne, et on a aussi des coureurs un petit peu pour les profils d'étape dits intermédiaires, comme Cyril Gauthier ou Arthur Vichot. Après, il y a aussi un argument qui est peut-être un peu moins sportif, qui est plus économique, marketing, c'est que c'est une équipe qui s'est créée avec la volonté d'aller sur le Tour de France dès la première année. Bon, ça s'est pas fait, en même temps c'était compliqué, hein, puisque si je ne me trompe pas, il n'y a que l'équipe Cervélo qui a reçu une wildcard pour le Tour de France dès sa création. Et donc, j'ai envie de dire, de fait, si ASO refuse la participation au Tour de France à Vittel Concept B&B Hotel pour la deuxième année consécutive, bah, il se pose le doute de est-ce que ça ne pourrait pas porter préjudice à l'équipe. C'est un petit peu un risque de ce point de vue-là. Donc ça peut également donc voilà être en quelque sorte un argument marketing. D'autant plus que voilà, un Brian Cocard, un Pierre Roland, ce sont des coureurs qui sont bien connus du grand public, hein, qui attirent pas mal de monde. Donc c'est des noms sur lesquels on peut communiquer. Donc ça serait de la même manière encore un petit peu. Ça pourrait être dommage de s'en passer. Après, voilà, pour les côtés négatifs. Il n'y a peut-être pas ce top coureur entre guillemets, parce que Brian Cocard, l'année dernière, en 2018, on l'a vu un petit peu en difficulté, même s'il a gagné quelques victoires, il a toujours pas ce déclic en World Tour. Alors certes, ça pourrait être l'idée du défi pour Vittel Concept. Il a déjà fait un podium au sprint où il a perdu de quelques millimètres face à Marcel Kittel. Il pourrait aller chercher cette victoire dans un déclic sur le Tour de France, ou même ça pourrait se déclencher sur Paris-Nice. Et après également, Pierre Roland, actuellement, c'est un petit peu comme Lilian Calmejane, c'est un coureur qui est surtout dans les échappées, qu'on voit un peu moins. Si Pierre Roland retrouve son niveau, oui, mais en tout cas, Pierre Roland n'a pas forcément la garantie d'un excellent grimpeur. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être cet écueil-là un petit peu, et même de la même manière, si on regarde en dehors de Cocquart et Roland, ça peut être bon comme ça peut être moins bon. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme ce que j'avais dit dans l'émission précédente sur les transferts des Gauthier, des Vichot ou même des Roland. C'est un petit peu des paris à relancer. Donc c'est pas une garantie complète en tout cas. Voilà. Après c'est vrai que au final si on regarde une compo type. Qu'on pourrait avoir par exemple Cocquart, Reza, Lebon, Dimiturgis, Gauthier, Vichot et Roland, c'est une équipe qui peut être pas mal, qui peut être intéressante, avec des coureurs pour accompagner Cocquart, mais aussi des coureurs pour aider Pierre Roland. Et pour finir sur un point positif pour Vittel Concept, on peut dire que Pierre Roland pourrait aller jouer un maillot à poids. Et même si c'est que entre guillemets des échappées, jouer maillot à poids, ça peut être très intéressant. Bon, voilà du coup pour la présentation de ces trois équipes. Maintenant, on va passer au débat. Alors la question elle est simple. Selon vous, quelles équipes devraient être sélectionnées par ASO pour être sur le Tour de France 2019? Anselme, à la place d'ASO, tu sélectionnerais qui?
Moi, c'est Arkea et Vital Concept directement, parce que, comme on l'a dit, Direct Energy, c'est en dessous. Calmejane, en haute montagne, il sera trop limité. Et au sprint, c'est pareil, ils sont en dessous des autres. Bonifacio, il est en dessous de Cocquart, clairement en dessous de Greipel. Et pour moi, c'est plus l'équipe que c'était à l'époque de Vauclert et de Pierre Roland. Pour moi, Vital Concept a repris beaucoup de leurs coureurs et a repris ce rôle-là d'équipe des Français avec et de la bande de copains. Donc clairement pour moi c'est Direct Energy qui a pas le c'est surtout sur le plan sportif, ils ont pas l'effectif pour rivaliser face aux deux autres équipes françaises qui de par leur recrutement se sont énormément renforcées et pour moi éjectent Pernodeau du Tour de France.
Et toi, Alex, tu laisserais également Direct Energy sur le bas-côté?
Alors moi j'inviterais Israël Cycling Telco Marc Provence. Non je rigole, je le ferai pas.
Là, ça y est, c'est le troll de l'émission. Merci, au revoir.
Voilà. Donc non, en vrai je ferais exactement pareil. Pour moi, il y a trois choses qu'une équipe doit avoir pour aller sur un grand tour. C'est un bon grimpeur, un bon sprinter et un bon chasseur d'étapes. Et sur les trois points, Vital et Arkea Samsic ont un meilleur coureur à chaque poste pour chaque. Sur le meilleur sur les grimpeurs, Barguil au-dessus de Calmejane, qu'on le veuille ou non d'ailleurs.
d'ailleurs, même si Calmejean a remporté une étape plus récemment que Roland, Roland, ça reste quand même une valeur à peu près sûre en montagne, que ce soit pour le maillot à poids ou pour les échappées. En sprint, il n'y a pas photo. Greipel, Cocard, ça tape Bonifazio tous les jours. Et sur les étapes, quand tu regardes chez Direct Energy, il n'y a vraiment personne à part Calmejean. Peut-être Hiver ou Anthony Turgis dans un bon jour, mais j'y crois pas du tout. Tandis que chez Vital Concept, par exemple, on retrouve Arthur Vichot. Après, c'est vrai que sur Arkea Samsic, il n'y a pas vraiment de grosse profondeur d'effectif. Mais déjà, avec le duo Barguil-Greipel, ça suffit pour moi. Ça fait 2-1 sur le score. Donc, je mettrai Arkea et Vital sans hésiter.
Alors, moi, je serais peut-être un peu moins dithyrambique que vous. Arkea Samsic, je pense que c'est clairement l'équipe qui part avec, avec l'avantage, avec le plus de garanties en tout cas. Parce que oui, Barguil et Greipel, ce sont des top coureurs. Bon, même si Barguil il a eu une saison 2018 compliquée, ça sera l'occasion de voir par exemple sur Paris-Nice ce qu'il arrive à se relancer. Mais voilà, j'ai envie de dire que Arkea Samsic par favorite. Après derrière entre Direct Energy et Vital Concept B&B Hotel, il y a match. Il y a match. D'un côté, on a une équipe très expérimentée qui est là depuis de très nombreuses années, avec un patron très charismatique qui, je pense, est quand même un petit peu connu du grand public, Jean-René Bernoudot. Mais pas forcément de coureurs qui pourraient marquer ce Tour de France. Hein. Voilà, Niki Terpstra, ben, il n'y a pas d'étape pavée. Donc pour lui, il n'y a pas d'étape vraiment pour, où il pourrait bien s'exprimer. Hein, Lilian Calmejean, ben, c'est un coureur d'échappée de la même manière. Et ça manque un peu de garantie. Et de l'autre côté, on a Vital Concept B&B Hotel, qui est une équipe plus jeune, qui sort pas forcément d'une super saison, voilà, mais qui a également des atouts à faire valoir. Avec Cocard, avec Roland. Voilà, j'ai envie de dire que pour le coup, ben, Pierre Roland pourrait marquer davantage le Tour de France qu'un Lilian Calmejean, parce que ben, Calmejean, quand on est en haute montagne, c'est pas trop son terrain de prédilection, alors que Pierre Roland, oui. Et en l'occurrence, il y a plus d'étapes pour Roland que pour Calmejean sur les Tours de France. Et après, par contre, au niveau des sprinteurs, Cocard, il va falloir voir s'il arrive à bel et bien se relancer, à bel et bien reprendre le fil de la marche, parce que on a en face un Nicolo Bonifazio qui, certes, a peut-être pas forcément montré grand-chose, mais... Alors là, il a 25 ans, il est prometteur, il a signé quelques bons résultats l'année dernière, il a fait trois podiums au sprint sur le Tour d'Italie, il a fait un top 10 sur la classique d'Hambourg. Donc j'ai envie de dire que ça se joue. Après, est-ce que ça va se jouer sur le passé de l'équipe? C'est une question qui peut se poser.
Bah moi j'ai peur que ça se joue là-dessus. Et d'autant qu'en plus Paris-Nice avantage un peu plus un coureur comme Calmejean qu'un coureur comme Roland. Donc il se pourrait que du coup on se retrouve avec Direct Energy qui est pour moi une équipe moins adaptée au Tour, et avec du coup bah Vital ou Arkea, ça dépendra, laissé sur le côté pour des raisons sportive, alors que la vérité de mars n'est pas celle de juillet.
Toi, Alex, est-ce que tu penses passé un petit peu, ou même la présence de Jean-René Bernoudot à la tête de Direct Energy peut jouer?
Ça peut jouer, mais j'espère qu'ASO ne tombera pas dans le piège du fait que ça va jouer. J'espère pour moi qu'ASO regardera les équipes, le potentiel que ça peut avoir en termes de spectacle et en termes de victoire, et dira celle-là, elle est meilleure que celle-là sur le papier, on prend un risque, au cas où même il y ait des coureurs qui performent moins bien, on les prend plutôt que d'un se baser sur Paris-Nice. Mais je suis pas totalement d'accord au fait que Vital Concept, que Roland marche moins, c'est quelqu'un qu'on oublie, c'est un peu Arthur Vichot, auquel ça peut convenir, plus ou moins, même s'il est loin de ses grandes années, le profil peut lui convenir s'il tient dans le col de Turini. Et sur le reste, voilà, j'espère juste que ASO ne fera pas de décision brusque et ne fera pas jouer l'ancienneté sur ce coup, parce que ce serait vraiment... Aussi, juste un truc pour revenir sur Bonifazio, ces trois podiums sur le Giro, faut voir qui tape, hein, parce que il finit derrière Viviani, mais derrière c'est Van Poppel, Venturini, Gibbons, Conclave. Voilà. Sur le Tour de France, ce sera pas pareil.
Oui, mais après, de la même manière, peut-être qu'il va se révéler chez Direct Energy avec un rôle un peu plus, peut-être un peu plus adapté. Bon, c'est vrai qu'en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une garantie d'un point de vue sprint. Ça, je te l'accorde. On ne peut pas dire que Nicolo Bonifazio va gagner l'étape du Tour de France. Ça, mais je pense que ce qu'on peut peut-être retenir aussi, c'est le fait que ben, sur les derniers Tours de France, Direct Energy n'a jamais, en tout cas, pas dans mon esprit, hein, il ne me semble pas que Direct Energy ait déçu. Sur les Tours de France passés, à chaque fois qu'ils sont venus, ben, ils ont été impliqués, ils ont été dans les échappées, ils ont fait du spectacle, ils ont plus ou moins réussi leurs attentes.
Et c'est ça leur force, justement. Ils sont capables à chaque fois, sur tous les Tours de France où ils ont participé, ils arrivent à mettre une certaine ambiance, ils arrivent à prendre je sais pas combien d'échappées, ils arrivent à claquer des étapes, ils arrivent à être réguliers à chaque fois sur le Tour de France. Et c'est ça la force de Direct Energy, c'est ça qui peut faire pencher la balance éventuellement en leur faveur.
Tout à fait, parce qu'au final, on dit souvent, même pour parler des étapes de plaine, on dit souvent que les étapes de plaine sont un peu insipides, qu'il ne se passe rien, mais si on se retrouve avec quasiment toutes les équipes qui n'ont aucun intérêt à partir dans des échappées, là, on aura. Ça va encore plus accentuer cela, alors que ben, Direct Energy, ils mettent souvent du monde devant. Ils sont là pour animer les étapes. Alors que Fortuneo, qui est devenu Arkea Samsic, alors que Fortuneo avait fait un Tour de France l'année dernière, bien plus caché quand même. Ils étaient pas envie de dire passé à côté, puisqu'ils.
Suis.
Mais voilà, c'était très loin de ce qu'on pouvait espérer d'eux, quoi, en tout cas.
Ils étaient là l'année dernière sur le tour Fortuneo, je les ai pas vus. Hein. Ils se cachaient drôlement.
Et toi, Anselme, qu'est-ce que tu penses hein?
Non, moi je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus.
Donc on va dire. Allez, si on essaie de faire une synthèse, on mettrait peut-être Arkea Samsic devant. Là-dessus, on est peut-être d'accord.
Ouais, je pense.
Et derrière, en balance, Direct Energy et Vital Concept, plus ou moins au même niveau, en misant sur un Paris-Nice qui partagerait les deux.
Moi, j'ai dit Vital Concept d'une demi-roue, chope la wildcard.
À la photo finish.
Ah ouais.
Et toi, Alex?
Ouais, pareil. Je vois Vital Concept également. Je vais pas dire à une victoire World Tour près parce que bon, j'ai pas remis le couteau dans la plaie non plus, mais.
Direct Energy qui s'est imposé en World Tour l'an dernier sur Paris-Nice. Hein. Avec la victoire de Jérôme Cousin.
Et Jonathan.
Et Jonathan Hiver.
Et Jonathan Hiver, tout à fait. Donc s'ils nous ressortent le même numéro, là, il y aura fort à faire chez Vital Concept. Hein.
Ouais, mais hiver, il ne marche pas l'été.
Ah oui, mais là, pour l'instant, on est en hiver. Hein. Bon, et ben, très bien du coup pour cette partie sur les wildcards sur le Tour de France. Tant qu'à rester sur les wildcards, on va parler un petit peu de celles qui seront à attribuer pour le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Bon, alors on va commencer par le Tour d'Espagne, puisque là ça ne devrait pas bouger par rapport à 2018, où on avait Cofidis, Burgos BH, Cararroal et Euskadi Murias. Là normalement on ne devrait pas avoir de surprise. Je ne sais pas
on sait jamais. Je vais en dire. Parce qu'il faut pas oublier la montée en Continental Pro d'une équipe incroyable, W52, qui a dans ses rangs, je vous le rappelle, Alarcón, candidat idéal pour la victoire. Donc moi je pense que c'est un atout de poids et que s'ils demandent une wildcard, il faut leur attribuer. Clairement, on veut voir du démarrage, du bourrin en montagne. Faut l'amener. Le train bleu, ce sera celui-là.
Ah, mais après, est-ce qu'il risque pas de se poser un problème de calendrier? Parce que le Tour du Portugal, c'est juste avant le Tour d'Espagne.
La préparation idéale.
Ah, mais quel est le vrai objectif?
Je pense qu'ils sont assez forts pour faire les deux dans la lancée. Ça leur fait pas peur.
Ça va être leur seul point fort de la saison. Ils vont rien faire, puis ils vont se réveiller pendant le Tour du Portugal, faire la Vuelta, puis se rendormir.
Bon, après, je sais pas du tout s'ils vont demander des wildcards. Après, je pense qu'on peut les voir sur des courses comme le Tour de Catalogne, tout ça, pour se faire une idée de leur niveau.
Il y a combien de wildcards donnés sur la Vuelta? 4?
4, ouais.
Sur la Vuelta 4, ouais. Après, il y a une équipe comme Burgos aussi qui, clairement, ils ont fait une Vuelta très difficile l'année dernière. Hormis quelques échappées, ils ont pas été très très présents. Et si du coup l'équipe portugaise candidate, ça pourrait être Burgos qui les saute, parce que bon, Murias, ils sauteront pas, ils ont gagné l'année dernière une étape, et puis c'est l'équipe forte espagnole du moment. Cañaveral, c'est pareil, ils sont quand même assez forts. Ils ont fait quelques bons résultats, notamment avec Soto. Et puis ils ont recruté Aberasturi, qui était pas mauvais non plus. Et puis Cofidis, bon, ça reste le sponsor de la Vuelta, un des sponsors de la Vuelta. Je vois pas comment ils pourraient partir, en plus que sur le plan sportif, ils sont supérieurs aux équipes citées juste avant.
Ouais, pareil. Moi, je vois bien, si jamais W52 demande également, juste avec le comparatif d'effectifs.
Ouais, donc peut-être un doute... sur la participation de Burgos. Après, c'est vrai qu'on peut avoir W52, mais on a aussi une équipe comme Mansana Postobon qui pourrait candidater également.
C'est vrai. D'autant que Molano n'était pas mauvais au sprint. Après, en montagne, ça reste plus limité quand même du côté des Colombiens. Un paradoxe.
Ça reste beaucoup de no-name quand même, hein, chez... Mansana Postobon.
Moi, j'ai envie de dire sur les trois équipes, hein, Burgos, W52, Porto et Mansana Postobon, c'est pas des coureurs stars un petit peu entre guillemets. Et de la même manière, dans les autres équipes Continental Pro, j'ai pas vraiment d'idée de qui pourrait candidater.
Ouais, non, je pense pas que. À la rigueur, si une équipe comme Arkea n'a pas de wildcard, ce qui serait improbable, il pourrait toujours candidater sur la Vuelta. Après, mais j'y crois pas trop.
Après, oui, c'est une possibilité que l'équipe qui n'est pas sur le Tour de France essaye de faire la Vuelta.
Il y a Direct Energy qui, déjà, a candidaté au Giro.
Ouais, et d'ailleurs, pour le Giro, moi, j'ai beaucoup de mal à me faire une idée des équipes, hormis Androni qui est déjà invité, puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Italie.
Cycling Academy, très certainement.
Oui, voilà, ouais, tout à fait. Pour le Tour d'Italie, justement, donc, on a pareil 4 wildcards. On en a une qui est déjà assurée pour Androni Giocattoli, puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Italie, comme tu l'as dit, Anselme. Et derrière, on a 5. On pourrait avoir 5 équipes candidates, plus ou moins déclarées. En tout cas, on sait que Direct Energy est candidate à une wildcard, donc avec la volonté de faire deux grands tours. Ce qui est quand même pas assuré, on est d'accord là-dessus. Mais on a aussi les équipes italiennes Bardiani CSF, Nippo Vinifantini et Neri Sottoli Sele Italia KTM. une équipe qui est un petit peu en difficulté d'ailleurs, c'était l'ancienne Villiers Triestina. Et on a aussi Israël Cycling Academy qui a fait le Giro en 2018 et qui pourrait très bien le refaire cette année. Donc c'est vrai que pour le Giro, il y a plus de candidats.
C'est 4 places au total?
Oui, c'est
Ouais, c'est 4.
4
Donc
wildcards,
il en reste 3 à attribuer là.
ouais, c'est ça, tout à fait.
Moi, je verrais Bardiani, Israël, Nippo, mais c'est pas ce que j'espère.
Moi, je suis pas du enfin, je suis déjà, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, Nery Sottoli devrait y être parce qu'avec la recrue de Visconti, de Dyer Quintana, c'est des gars qui sont costauds pour aller chercher des étapes sur les des victoires d'étapes sur les étapes accidentées en montagne. Dyer Quintana, pour moi, il était assez bridé à la Movistar et cette année, c'est l'année où il doit se révéler s'il se révèle un jour. Et Visconti, c'est une valeur sûre, très costaud dans les petits, en petit comité sur les étapes accidentées comme il y a sur le Giro. C'est parfait. Après, et d'autant qu'ils ont des coureurs intéressants avec notamment le retour de Bongiorno qui en 2014, si je dis pas de bêtises, avait été très fort sur le Zoncolan avant d'avoir été bousculé par un spectateur. D'autant plus que la Bardiani, ils ont Guardini, Barbin qui ont fait un bon Giro l'année dernière. Même si Guardini est parti très vite rentrer chez lui, mais ils ont perdu Ciccone aussi. Et en montagne, ils seront beaucoup plus limités. Et pour moi, ils ont un effectif très faible cette année. Et bien que ce soit l'équipe un peu phare pour les jeunes Italiens, elle est très peu, elle perd des atouts. En face, on a la Nippo, donc qui a Lobato depuis quelques années, qui est un sprinter correct et qui en plus passe très bien les bosses. Et cette année, ils ont recruté Moreno Moser. Donc, est-ce que ce sera un bon choix pour lui? Est-ce qu'il va se relancer? Je sais pas. Mais ça fait toujours un nom attrayant pour un organisateur qui plus est en Italie. Après, il y a les équipes comme du coup Israël et Direct Energy. Israël, ils ont beaucoup de sprinters, mais c'est pareil, ça va être des petits sprinters de top 10, top 5, guère plus. Et en montagne, hormis Hermans, Plaza peut-être, qui avait fait deuxième d'une étape l'année dernière, c'est plus limité. Et pour moi, justement, c'est Direct Energy qui est parmi les plus sérieux candidats, d'autant plus s'ils ne font pas le Tour de France. Et si j'étais organisateur, je les mettrais sur le Giro et pas sur le Tour, parce que justement, Calmejane, qui a un profil un peu à la Visconti, il trouverait un terrain de jeu parfait en Italie, mais Taramae, il y aura une concurrence un peu plus faible aussi. Il pourrait aller remporter une autre étape. Et puis au sprint, Bonifacio sur le Giro, il peut gagner, ce qui est pour moi impossible sur le Tour. Donc, si je devais choisir, j'aurais mis Neri, Nippo et Direct Energy.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 5 équipes qui restent, qui sont là pour les 3 dernières wildcards, sont d'un niveau à peu près similaire. Ça, quand même, c'est.
J'aurais pas mis Nippo, moi. J'aurais mis Neri Direct Energy Bardia Nippo, quoi. Ça reste quand même une équipe phare des années récentes.
Ouais, après, ils ont eu des problèmes d'ordre extra-sportif un peu avec pas mal de coureurs suspendus ces dernières années.
Quelle équipe, hein? Pardon.
Bardiani. Avec Ruffoni, il y avait eu Pirazzi, entre autres, qui avaient été, eux, c'était juste avant le Giro 2016 d'ailleurs.
Ça les a pas empêchés de participer au
Ouais.
Giro 2020.
Mais je pense que, enfin après, je sais pas ce que font les organisateurs, mais pour moi, Guardini et Barbin, c'est plus faible que Lobato ou Moser. Et c'est surtout que, en dehors de ces deux têtes d'affiche, Bardiani, ils ont pas beaucoup de coureurs. Et en perdant leur grimpeur italien, pour moi, c'est un peu ce qui les pousse hors du Giro.
Mais Moser, il a rien fait depuis 2-3 ans déjà. Lobato, il va faire quoi des 7e? Moi, franchement, sprinter italien comme Guardini. Je vois un autre qui est un espagnol et puis Moser qui a rien fait depuis 3 ans. Je signe Bardiani quand même.
Après, quand Moser aura gagné les Strade Bianche, ça changera la donne.
Effectivement, il gagnera le classement.
par là. Voilà.
Non, après, bah, justement, pour le Giro, le début de saison sera assez important, je pense. Et s'il y a une équipe qui a du retard à l'allumage, ça risque de lui être fatal.
Après, de la même manière, tout dépend de quand est-ce que RCS Sport va annoncer les wildcards, parce que s'ils annoncent les 4 wildcards avant que ASO annonce les leurs, bah, ça risque de porter préjudice à Direct Energy, par exemple.
Ouais, c'est pas faux, ouais.
Alors que, bah, j'ai envie de dire, Direct Energy, s'ils font pas le Tour de France, ils seraient très bien sur le Tour d'Italie et ils seraient largement devant les autres là-dessus. Il n'y a pas trop de doute pour moi.
C'est pas vrai. Mais en plus, c'est vrai que RCS a l'habitude de donner les invitations du Giro en même temps que Tirreno, Milan-Sanremo, Lombardi.
Ouais, de faire un petit bloc. Hein.
Ouais, ça pourrait. Après, est-ce que du coup, du fait de l'inconnu Direct Energy, ils vont retarder? Je sais pas. Mais c'est sûr que si ce Direct Energy se retrouve sans grand tour, ça va leur faire bizarre.
En tout cas, après, pour les équipes italiennes, je pense que Bardiani va y être encore une fois. Parce que voilà, ils ont quand même suffisamment de garanties. C'est une équipe qui est là depuis de très nombreuses années, qui a fait beaucoup de Giro. Et voilà. Des garçons comme Guardini peuvent faire de bons résultats. Après, voilà, même s'ils ont perdu Giulio Ciccone, ils seront certainement en mesure de faire un Tour d'Italie tout à fait correct. Après, derrière, entre Nippo, Israël et Neri, la tâche se complique. Nippo Vigné-Fantini n'a pas fait le Giro en 2018, mais là ils ont leur chance, puisque ben, en face, Neri Sottoli a pas mal perdu en termes de qualité, pas mal perdu de coureurs, et on a aussi Israël qui a fait un Tour d'Italie ben, où ils se sont montrés quand même au final, avec des coureurs italiens qui pourraient faire de belles choses. Et j'ai envie de dire, voilà, comme j'ai dit pour Bardiani que Guardini c'était un argument intéressant, ben, Cimola il peut l'être tout autant du côté d'Israël. Donc si Direct Energy ne fait pas le Giro, en tout cas Israël aura tout à fait sa place pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez d'Israël? Vous avez dit il y a beaucoup de sprinters, mais ils ont un petit contingent italien, ça peut-être jouer également.
Ouais, c'est vrai, d'autant que j'ai vu, enfin, après, j'ai vu passer aussi que le propriétaire d'Israël s'est prêt à verser une compensation s'ils sont invités. Je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas. Et après, c'est surtout que l'année dernière, enfin, Plaza a failli gagner une étape, donc on peut pas dire qu'ils étaient complètement ridicules, même si une des images du début en Israël, quand un de leurs coureurs essaye de prendre l'échappée et puis il n'y parvient pas, et que c'est un de ses coéquipiers qui doit s'y coller après, c'était assez marrant. Mais bah, j'ai peur que on se retrouve avec, par exemple, Belletti, Cimolai sur le sprint, et puis un peu comme à l'époque Androni, quand ils avaient Belletti, Apollonio, c'est les deux sprinteurs font 7 et 8, et puis bah dans le fond, ça n'a pas grand intérêt.
En tout cas, ça serait
sans,
peut-être pas une mauvaise
sans
idée.
Sans oublier Sbaragli.
Ouais, vas-y, Alex.
Sans oublier Sbaragli, il était italien également.
Donc, ouais, c'est vrai.
Quand même trois mini sprinters italiens, ça commence à faire. Et du coup, c'est pas 7-8, c'est 7-8-9.
Ouais. Après, Sbaragli a gagné une étape sur la Vuelta, donc il a ça pour lui pour revendiquer peut-être la place de sprinter numéro 1. On sait pas. Mais ouais, j'ai du mal à voir leur sprinter se mettre, se sacrifier pour un. Je dois plutôt jouer à l'individuel un peu sur chaque sprint.
Bon, en tout cas, RCS aurait, je pense, tout intérêt à faire comme ASO, et c'est-à-dire à désigner les wildcards après Tirreno, qui servirait un peu qui servirait de course test.
Ouais, moi je serais eux, je ferais ça.
Ouais, même je serai RCS, j'attends, s'il le souhaite, les wildcards pour le tour. Parce que Direct Energy et Nicolo Bonifazio, un Bonifazio, ça vaut tous les mini-sprinters que l'AS pourra aligner.
Ouais, je suis assez d'accord, mais après, je pense que s'ils attendent la fin de Tirreno, ça coïnciderait puisque ASO va sûrement le donner ses wildcards après Paris-Nice et Tirreno se terminant après. Ça devrait être. Après, est-ce qu'ils vont attendre? C'est ça la question.
Bon, en tout cas, je pense que sur la globalité, on peut dire, et ça c'est aussi ce que Jérôme Pinault ou Emmanuel Hubert ont tiré de positif. La chose positive qu'on peut retirer de tout ça, de ces invitations au Grand Tour, c'est que c'est une bonne idée de laisser une chance sportive d'avoir une course un petit peu test pour faire le choix pour les wildcards.
Ouais, moi je pense que c'est important parce que quitte à prendre des équipes étrangères, autant le faire à la place sur le critère sportif et à la place d'équipes françaises pour le tour ou italiennes, mais pour le Giro, mais qui n'auraient pas leur place. Comme c'est arrivé parfois par le passé en se disant mais qu'est-ce qu'ils font là? On aurait pu prendre mieux.
Mais le seul problème, le truc de course test, l'idée est vraiment bien. Après, il faut que ton parcours sur ta course test, il corresponde un minimum avec le type de coureur que tu veux faire briller sur ton parcours réel, ce qui n'est absolument pas le cas du Tour de France et de Paris-Nice. Le parcours est absolument immonde, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Qui a une étape de montagne qui est déguisée avec du monde. Donc, il faudrait peut-être corser un peu le parcours Paris-Nice pour pouvoir avoir une vraie course test, mais voilà.
Bon après, enfin, pour le parcours de Paris-Nice, hein, même s'il n'est pas transcendant, c'est vrai qu'il ressemble peut-être plus à un Tour de France, puisqu'on a du plat, de la montagne, des vallons et un contre-la-montre, que un Tirreno Adriatico, où par contre, pour le coup, il n'y a pas de montagne.
Aussi.
C'est
Parce
l'argument.
que le Tirreno Adriatico, je voulais pas vraiment dire quoi que ce soit dessus. Et du coup, les deux sont faux.
Bon, et bien, très bien, on arrive du coup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter à la fin de ce podcast. Pour finir, allez, le petit mot de la fin quand même, on va coller un petit peu à l'actualité. Je vais juste vous demander qui est-ce que vous voyez remporter le Tour Down Under qui a lieu cette semaine et qui a été remporté l'année dernière par Daryl Impey. Alex. Qui est ton favori?
J'étais parti à la base sur Rohan Dennis, finalement sur Jay McCarthy, Brown Gros numéro 14.
Donc ouais, Jay McCarthy qui a fait plusieurs bons petits résultats sur le Down Under. Et toi, Anselme, qui est ton favori?
Eh bien, je vais partir sur un ancien vainqueur qui a plus de mal depuis, mais ce sera Tom Hjelte-Slagter que je vois performer en ce début de saison.
Bon, moi, le mien, je m'en étais mis un deuxième en secours parce que je pensais que vous alliez le choisir, mais ça me semblait tellement évident. Bah, du coup, je vais le dire, Richie Porte, parce que ça fait, je crois, 3, 4 ou 5 ans qu'il remporte l'étape de Willunga-Hill, en plus en attaquant quasiment à chaque fois
C'est un
au
peu
même endroit.
facile, ça.
Ah, c'est facile, mais si vous le dites pas, moi, je le prends.
D'ailleurs, Richie Porte qui ne gagnera pas cette année son étape fétiche.
Pourquoi?
Parce que il est chez Trek, il pourra pas gagner. Malédiction. Non, je le vois pas gagner cette année.
Ouais. En plus, au passage, l'étape de Willunga-Hill cette année qui sera la dernière étape du tour Down Under. Un petit
Ah, c'est
changement dans
ça.
l'organisation de la course, il n'y aura plus le critérium final dans les rues d'Adélaïde, pour finir.
Du coup, Richie Porte, en fait, il va attaquer sur la cinquième étape. Et il va se rendre compte que c'est gouré. Du coup, il aura mal géré son pic de forme et paf, sixième étape, il se prend un éclat.
Ah,
Classique.
ça ferait un joli scénario improbable.
Tout à fait, ouais.
Bon, et ben voilà. Du coup, on a tout dit. Voilà, je pense que maintenant il est temps de se dire au revoir et de se dire donc à bientôt pour un nouveau podcast. La saison reprend avec en Australie avec ce Tour Down Under. Qui de Richie Porte, Rohan Dennis ou Tom Hjelteslagter gagnera, à moins que ce soit un autre, c'est la grande question qui va nous animer dans les jours à venir. Eh bien du coup, salut à tous, on vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt.
À plus.